13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, quand la police enquête sur les fêtes du Premier ministre, le mois de janvier, un peu plus glacial pour Boris Johnson à Londres, nous retrouvons notre correspondant dans un instant. La vague Omicron du Covid, le pic n'est pas passé, le président du conseil scientifique ce matin.
La vague sur l'hospitalisation, elle va être très lourde sur la France jusqu'à à peu près la mi-mars.
Le professeur Delfraissy reste optimiste pour le printemps. Est-ce que les choses s'arrangent à l'école? Réunion syndicat-ministère aujourd'hui. Dans le premier groupe privé de maisons de retraite, Orpea, l'obsession du profit amène-t-elle à maltraiter les résidents? Un livre choc très étayé, Les Fossoyeurs, sort cette semaine. Son auteur, le journaliste Victor Castanet, est notre invité. Et j'attends vos témoignages au standard 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans l'actualité encore, le bioéthanol est-il la réponse à la hausse des carburants? La naturalisation du chanteur Gims, sans doute pas pour demain. Quand Joe Biden traite un journaliste de connard. Et le tennis, Gaël Monfils, mal parti face à Berrettini. Vos rendez-vous dans le 13-14, le vif de l'histoire sur l'adoption internationale, le feuilleton avec un médecin légiste. Et puis l'humoriste Virginie Hoc nous parle du titre qui l'a aidé à accoucher. Mais oui, dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Ça se complique un peu plus pour Boris Johnson, le Premier ministre britannique. Cette fois, c'est la police qui s'empare de l'affaire des fêtes à Downing Street et dans le quartier des ministères pendant les confinements. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Londres en direct avec nous, la Metropolitan Police est donc entrée dans la danse ce matin.
Oui, c'est la chef de la police de Londres elle-même qui s'est chargée de l'annoncer il y a quelques minutes. Elle ne parle jamais d'enquête sur Boris Johnson lui-même. Elle cite bien son cabinet et le siège du gouvernement. Cressida Dick lance des investigations sur un certain nombre d'incidents, elle ne précise pas combien, au cours des deux dernières années où elle suspecte des infractions aux règles anti-Covid.
Oui, police. Without fear or favor.
Nous faisons la police sans crainte et sans passe-droit. Nous la faisons de manière impartiale et indépendante sur le plan opérationnel. J'ai moi-même enquêté sur des affaires politiques impliquant des membres de gouvernement, des hauts fonctionnaires et sur beaucoup plus d'affaires que tous mes prédécesseurs. Je l'ai toujours fait et je le ferai toujours de manière impartiale.
Si la police finit par enquêter, c'est grâce aux informations recueillies auprès du cabinet du Premier ministre et celles aussi des policiers en poste sur place. Pour lancer ces investigations, elle s'est assurée que les personnes visées savaient ou devaient savoir qu'elles enfreignaient les règles. Il y a eu des échanges aussi avec Sue Gray, la fonctionnaire réputée intraitable qui mène actuellement une enquête uniquement administrative à Downing Street. Ces discussions ont visiblement contribué à déclencher cette annonce aujourd'hui.
Richard Place en direct de Londres et Boris Johnson était hier l'un des trois dirigeants européens en visioconférence avec Joe Biden à propos de l'Ukraine. Les deux autres étaient l'Allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron. L'Alliance Atlantique a annoncé hier envoyer des avions et navires de combat à l'Est. Les États-Unis mettent en alerte jusqu'à 8500 soldats. Réponse russe ce matin, France Inter à Moscou, Sylvain Tronchet.
À en croire les médias russes proches du pouvoir aujourd'hui, les gouvernements occidentaux seraient pris d'hystérie face à une menace russe, fantasmée et dénuée de tout fondement. C'est sur ce ton qu'hier, Первый канал, la première chaîne russe, traitait l'actualité diplomatique. En plateau, présentateurs et consultants s'accordaient tous sur le fait que si menace il y a, elle vient de l'OTAN. D'après la Rossiyskaya Gazeta, cette hystérie qui a saisi Washington n'aurait qu'un but, permettre aux forces ukrainiennes d'attaquer les populations civiles du Donbass, ce que, dit le journal, Moscou ne laissera évidemment jamais faire. Cette thèse, selon laquelle ce seraient en réalité les Ukrainiens qui s'apprêteraient à lancer une offensive dans l'est du pays contre les populations russophones, a été développée hier par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, et reprise par de nombreux médias qui ironisent. Les Américains évacuent leur ambassade à Kiev, mais ils laissent sur place leurs conseillers militaires. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Quant aux services de sécurité ukrainiens, ils affirment aujourd'hui avoir démantelé un groupe coordonné par les services spéciaux russes qui préparaient des attaques armées contre des infrastructures dans le pays. Tension près de l'Ukraine, tension aussi en Afrique de l'Ouest, cette région où la France est engagée contre les djihadistes dans le cadre de la force Barkhane. 24 heures après le coup d'État au Burkina Faso, première réaction officielle de la France ce matin par la voix d'Emmanuel Macron.
Très clairement, comme toujours, nous sommes aux côtés de l'organisation régionale qu'est la CEDEAO pour condamner ce coup d'État militaire. Le président Kaboré avait été élu démocratiquement par son peuple à deux reprises. Il effectuait son deuxième mandat. Et je pense que ce coup d'État s'inscrit dans une succession de plusieurs coups d'État militaires qui sont extrêmement préoccupants dans un moment où la région doit avoir une priorité qui est la lutte contre le terrorisme islamiste.
Et vous avez des nouvelles du président Camboret ?
Aux dernières informations qui m'ont été transmises, il est en lieu sûr et...
Il est prisonnier.
Je ne veux pas commenter une réalité que je ne sais que de manière indirecte. En tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il était... n'était pas, si je puis dire, menacé dans son intégrité physique.
À propos recueilli par Simon Le Baron, l'ONU demande la libération immédiate du président Camboret. Autre propos d'Emmanuel Macron ce matin lors d'un déplacement en Haute-Vienne. Nous ne sommes pas encore au pic de la contamination Covid. Plus de 108 000 nouveaux cas annoncés hier. C'est en hausse par rapport au lundi précédent, mais en baisse par rapport à la moyenne de la semaine dernière qui était au-delà des 360 000. Près de 30 000 personnes hospitalisées, 3 800 en soins critiques. Les chiffres sont encore importants. Comment va évoluer l'épidémie dans les semaines à venir ? Élément de réponse avec le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, invité de France Info ce matin.
La vague sur l'hospitalisation, elle va être très lourde sur la France jusqu'à à peu près la mi-mars. Et ça va baisser probablement un peu en région parisienne en termes d'occupation des lits et d'hospitalisation, et les hôpitaux le disent d'ailleurs, hein. Mais c'est pas le cas du tout dans d'autres régions de France. Avec quelque chose qui sera peut-être pas une baisse, mais un plateau plutôt, et en tout cas avec un impact sur le système de soins qui va être extrêmement lourd. Et l'enjeu évidemment, c'est d'arriver à tenir à ce que le système hospitalier puisse tenir. Donc moi je vois atterrir les choses plutôt vers la mi-mars, avec une baisse progressive très lente en termes d'hospitalisation, et un nombre de contaminations qui va doucement finir par baisser, avec une hétérogénéité selon les régions, mais où le chiffre de nouvelles contaminations n'a plus tout à fait la même valeur qu'il avait avec les variants précédents.
Et le professeur Delfraissy appelle à stabiliser le protocole sanitaire à l'école. Les familles sont perdues, soyons un tout petit peu constants, dit-il. Selon lui, le dernier protocole en date répond en partie au défi de laisser à la fois les enfants à l'école sans laisser partir totalement l'épidémie. Et les syndicats de l'éducation avaient rendez-vous ce matin pour la réunion bimensuelle promise après la grève du 13 janvier. Des syndicats satisfaits d'avoir eu pour la première fois, selon eux, un éclairage scientifique, des explications sur la politique de test, non plus isolée systématiquement, mais freiner la circulation du virus dans les établissements scolaires. Il y a près de 15 jours, après cette journée de grève, Jean-Michel Blanquer avait promis de faire appel à quelques 8000 personnes d'ici à la fin de l'année scolaire, des assistants d'éducation, des vacataires, médiateurs Covid, contractuels, et promis aussi 5 millions de masques FFP2. À propos de ces masques, le département du Nord va en distribuer 1 700 000 dans les 15 jours à venir. Il est vrai qu'ils approchaient de leur date de péremption en juin. Ils seront distribués dans les collèges, les communes et aux conseillers départementaux. Christian Poiré est le président du conseil départemental.
Si on veut avancer encore plus dans cette pandémie pour qu'elle se termine, on a souhaité que chaque nordiste qui est en contact avec beaucoup de personnes soit aidé. On décide pas de les distribuer parce qu'il y a la date finale d'utilisation. On décide de les utiliser parce que on croit dans le fait que la pandémie avec Omicron aujourd'hui, on est dans les summums à 350 000 personnes contaminées par jour. On devrait avoir l'immunité totale dans les mois qui viennent. Donc il faut continuer. Et c'est maintenant qu'il fallait le faire. Là, ce qu'on souhaite, c'est les donner aux nordistes pour les protéger.
Propos recueillis par Louis de Bergevin de France Bleu Nord. Dernière information à propos du Covid ce matin. Pfizer et BioNTech annoncent commencer l'essai clinique d'un vaccin spécifique contre Omicron. L'idée du MEDEF contre la hausse des prix des carburants. L'organisation patronale propose de supprimer le versement transport payé par les entreprises aux intercommunalités pour financer les transports en commun et de le remplacer par une indemnité véhicule que les entreprises verseraient à leurs salariés. Selon les calculs du MEDEF, cela représente 300 euros par salarié et par an. L'exécutif prendra-t-il de nouvelles mesures contre la hausse des prix du carburant ? Réponse d'Emmanuel Macron ce matin, très peu de mesures ont un impact substantiel et dans un temps utile, les instruments sont réduits. Est-ce que le bioéthanol peut être une alternative grand public en ces temps de forte hausse de carburant ? Considéré comme un biocarburant, ce que beaucoup d'écologistes contestent, il bénéficie d'un avantage fiscal. Il coûte en ce moment 75 centimes d'euros le litre contre 1,70 pour le samplon 95, presque un euro de différence donc. En ligne avec nous, Nicolas Kurtsoglou. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Ingénieur responsable carburant au syndicat national des producteurs d'alcool agricole. La filière française des biocarburants présentait aujourd'hui son bilan annuel. Est-ce que la consommation de bioéthanol progresse ?
Absolument. En 2021, elle a progressé de 33% par rapport à l'année 2020. Et l'année 2020, malgré le Covid et les confinements, avait déjà vu une légère progression de 4% par rapport à l'année précédente. En 2021, il faut savoir que le marché des essences a progressé de 21%. Mmh. Donc le fait que le super éthanol E85 progresse de 33%, ça veut dire que sa part de marché a augmenté et représente aujourd'hui 4% des essences.
4% des achats et donc une progression très nette. Cela va, j'imagine, avec un boom des kits dont il faut équiper les voitures pour pouvoir rouler au bioéthanol.
Tout à fait. Alors vous avez deux manières de rouler au super éthanol E85. Soit vous avez une voiture essence et vous mettez un boîtier homologué dessus. Mmh. Et donc effectivement, depuis 2018, et donc il y a eu plusieurs pics sur les prix des carburants, et le E85 est toujours resté aux alentours de 0,70-0,75. Et donc il y a environ 80 000 boîtiers qui ont été installés depuis 2018. La deuxième manière de rouler, c'est avec les voitures Flex E85 d'origine, avec toute la gamme de Ford ou de les modèles de Jaguar et Land Rover. Également.
C'est ça, il y a deux marques hein, pour l'instant qui font ce type de voiture. Deux marques uniquement.
Ford, Jaguar et Land Rover avec 9 modèles qui prennent le E85 d'origine.
Le boîtier coûte environ 1000 euros, ça fait cher.
C'est entre 800 euros et 1000 euros. Ouais. C'est pas si cher que ça parce que c'est rentabilisé très rapidement avec le prix du carburant. Hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 0,75 euros contre 1,70 euros par litre pour le samplon 95-10. Ça veut dire plus de 500 euros d'économie pour 13 000 km, y compris la surconsommation du super éthanol E85 par rapport à l'essence. Donc en 2 ans, vous avez rentabilisé le boîtier.
Est-ce que le bioéthanol consommé en France, et donc produit à partir de betteraves notamment, est-ce que le bioéthanol consommé en France est produit intégralement en France ?
Alors à 90%, il est produit en France. Et effectivement, la France est le premier producteur européen de bioéthanol et nous sommes même légèrement exportateurs nets.
Alors, je le disais en introduction, c'est un carburant qui n'est pas du tout considéré comme vert par beaucoup d'écologistes qui dénoncent l'agriculture intensive qui permet de produire les betteraves, notamment les engrais chimiques nécessaires, l'utilisation de terres destinées à l'alimentation. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Alors, il faut d'abord toujours donner les sources de ce qu'on dit. Moi, ce que je sais, c'est que la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est l'organisme en France qui est lié au ministère de la Transition écologique, regarde extrêmement précisément la qualité du bioéthanol qui est vendu et consommé en France. Sur l'année 2020, c'est moins 66% de réduction de gaz à effet de serre par rapport à l'essence. Donc, chaque litre de bioéthanol, en moyenne, a réduit de 2/3 les émissions de CO2 par rapport à l'essence. Donc c'est très bon pour le climat. Je rajoute que c'est aussi très bon pour la qualité de l'air, puisque une étude suisse de décembre 2017 a démontré qu'on réduit de 90% les émissions de particules fines par rapport à l'essence. Donc sur ces deux points-là, c'est extrêmement positif. Il y a évidemment l'emploi, puisque c'est produit en France, c'est 9000 emplois équivalents temps plein, et aussi on garde plus de souveraineté énergétique puisque ça évite d'importer du pétrole de pays qui sont parfois pas forcément très stables.
Vous envisagez quel développement pour les années à venir, l'horizon pour les voitures électriques, c'est 2030. On se dit que 2030, ce sera peut-être la fin du bioéthanol.
Alors, en 2035, il y a une proposition de la Commission européenne pour que ce soit que des voitures électriques. C'est qu'une proposition. Ouais. Il va y avoir des discussions avec le Parlement européen et le Conseil européen. La position de la France, c'est que les hybrides rechargeables puissent exister au-delà. Et nous, notre position en tant que filière du bioéthanol française, c'est de dire qu'il faut mixer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'hybridation rechargeable d'une part et le bioéthanol d'autre part. Donc, des hybrides rechargeables Flex E85 qui sont en analyse de cycle de vie au même niveau, voire légèrement meilleur qu'un véhicule électrique dont la batterie a un impact CO2 non négligeable.
Merci Nicolas Kurtsoglou, ingénieur responsable carburant au syndicat national des producteurs d'alcool. Vous nous disiez donc que les ventes de bioéthanol ont bondi de 33% l'année dernière, là où les ventes d'essence globalement augmentaient de 21% sur un avantage donc pour le bioéthanol. Peut-être êtes-vous un peu perdu dans les différentes applications et sites internet SNCF. Il y a désormais SNCF Connect, qui rassemble les différentes offres de la société, a commencé par la réservation de billets, qu'ils soient TER, TGV, Intercité ou trains internationaux. On peut aussi prendre un abonnement. Bonjour Thomas Giraudeau.
Bonjour.
Le slogan pour présenter ce nouveau site, Thomas, et cette nouvelle appli, c'est faciliter la vie des voyageurs.
Oui, fini la recherche d'une gare à une gare, comme sur Oui SNCF. Depuis ce matin, sur SNCF Connect, vous mettez votre adresse et votre destination. Par exemple, pour un trajet entre la banlieue parisienne et un lieu précis à côté de Bordeaux, vous aurez le train Paris-Bordeaux, bien sûr, mais aussi le métro à prendre à Paris jusqu'à la gare, puis le bus, le tram ou le taxi en arrivant à Bordeaux, tous les moyens de transport possibles de porte à porte pour rendre l'option train plus attrayante, explique Anne Pruvot, la directrice générale de SNCF Connect.
Ce que l'on veut, c'est démontrer sa facilité d'usage. Donc le fait qu'il est facile d'aller jusqu'à la gare, qu'une fois que j'arrive dans ma gare de destination, j'aurai une solution facile pour aller vers mon point de destination. Et donc créer le réflexe à la fois vers des mobilités propres et durables, et au milieu de tout ça, une colonne vertébrale qui est le train.
Et le groupe ferroviaire mise beaucoup sur la nouvelle interface. Dans ce contexte d'épidémie, de télétravail, les réservations sont en chute libre. SNCF Connect, c'est le moyen de reconquérir des voyageurs, veut croire Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs.
Les Français, à plus de 70%, prennent leurs billets de façon numérique. Et donc, nous, on pense que la meilleure porte d'entrée, c'est SNCFConnect.com ou l'application SNCF Connect. Et c'est pour cette raison qu'on l'a ouverte aujourd'hui. Donc oui, ce nouveau SNCF Connect, c'est notre actif stratégique pour conquérir toujours plus de parts de marché.
Et la SNCF vise une augmentation de près de 50% de son chiffre d'affaires sur la vente de billets d'ici 2025.
Et le trafic ferroviaire était très perturbé ce matin. Gare de l'Est à Paris, conséquence d'un défaut d'alimentation électrique en périphérie à Château-Landon. La campagne présidentielle à 75 jours du premier tour. Yannick Jadot était ce matin l'invité des matinales spéciales de France Inter. Il a détaillé son programme à propos du sujet dont nous parlions à l'instant, le prix des carburants. Il propose un chèque énergie de 400 euros pour 6 millions de Français. Dans le programme également, référendum d'initiative locale, droit à l'euthanasie, convention citoyenne sur le temps de travail, fiscalité avec des bonus-malus selon que le patrimoine est plus ou moins vert, un ISF vert, 4 milliards par an pour développer le train. Et puis à propos de l'immigration, il s'en prend aux candidats d'extrême droite et de droite.
Oui, une instrumentalisation. Il y a une recherche de bouc émissaire. De Zemmour, le bouc émissaire, les musulmans. Le Pen, le bouc émissaire, l'immigré. Et quand vous avez même Valérie Pécresse qui parle de nettoyage au Karcher dans des quartiers de zones de non-France, ça s'appelle du nettoyage ethnique. Moi, je veux pas des boucs émissaires, je veux des solutions au problème des Français.
Yannick Jadot, invité de France Inter ce matin. Son programme est à retrouver sur franceinter.fr. Notamment les détails sur la sortie du nucléaire et le réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique. Et à propos de l'énergie, vous le savez peut-être, l'un des débats du moment au sein de l'Union européenne porte sur la taxonomie, la labellisation des énergies. Un projet de la Commission européenne prévoit de classer les investissements dans les centrales à gaz et nucléaire comme des investissements durables, ce qui faciliterait leur financement. Et accessoirement, en France, c'est un argument pour les partisans du nucléaire comme énergie à minima de transition. Alors le débat ne fait que commencer. Le groupe d'experts qui conseille la Commission européenne vient de remettre son rapport. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Correspondante de France Inter en direct de Bruxelles, Angélique, les experts appellent la Commission à revoir sa copie. Pourquoi cela ?
Eh bien parce que sur le nucléaire, par exemple, les critères proposés ne permettent pas de conclure à une absence de préjudice significatif sur l'environnement, écrivent-ils. Ils évoquent notamment le risque lié aux déchets. Même les nouvelles centrales ne trouvent pas grâce à leurs yeux. Les conditions posées ne garantissent pas, selon eux, une contribution substantielle aux objectifs de neutralité climatique en 2050. Quant au gaz naturel, ils rejettent le seuil d'émission retenu par la Commission pour leur affecter ce label vert. Un constat particulièrement sévère qui rejoint les critiques d'une poignée d'États membres, Autriche, Luxembourg en tête, qui menacent même d'un recours devant la justice. Pour ces États, inclure par exemple l'atome dans la taxonomie, même dans la catégorie dite de transition, enlèverait toute crédibilité à cette classification européenne censée attirer les investisseurs privés vers ce qui est bon pour la planète. Mais ils restent en minorité au Conseil face à la coalition pro-nucléaire emmenée par la France. Les besoins en électricité seront multipliés par deux dans les 30 ans à venir, plaide également le commissaire commissaire breton pour justifier la proposition de la Commission. Une proposition finale qui est attendue dans les prochaines semaines sous forme d'un décret qui, faute d'être invalidé dans les 4 mois par le Conseil, pourrait bien, en revanche, être bloqué au Parlement.
Angélique Bourg en direct de Bruxelles. Une panne d'électricité en Asie centrale. Des millions de personnes privées d'électricité au Kazakhstan et en Ouzbékistan notamment. Ça se rétablit dans un autre pays, le Kirghizistan. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour violation du secret professionnel après qu'un médecin a mis aux enchères sur Internet la radio de la blessure d'une femme touchée dans l'attentat du Bataclan. Les investigations sont confiées à la brigade de répression de la délinquance contre les personnes. Hier sur Twitter, le chirurgien en question a déploré une erreur grossière qu'il dit regretter amèrement. Il assure avoir détruit l'image en question. Si le chanteur Gims avait un espoir, il est douché. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était ce matin l'invité de France Inter et Léa Salamé l'a interrogé sur le cas du rappeur, autrefois appelé Maître Gims. Dans une vidéo au début de l'année, en mettant en avant sa religion musulmane, il avait appelé à ne pas lui souhaiter bonne année. Restons forts sur nos valeurs, ce ne sont pas nos fêtes. Depuis, il a présenté ses excuses. Par ailleurs, Gims est congolais, mais il a vécu l'essentiel de sa vie en France. La nationalité française lui a toujours été refusée jusque-là. Il a annoncé récemment présenter à nouveau une demande. Réponse de Gérald Darmanin ce matin.
Il y a un article très simple du Code civil, c'est l'article 21-24. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française. De manière générale, les tenants de l'islam rigoriste, c'est pas une bonne preuve d'assimilation à la nationalité française. Et donc moi j'assume le fait que des instructions sont très clairement données pour refuser la nationalité française, qu'on soit connu ou pas connu, lorsqu'on est tenant d'un islam rigoriste.
Ça veut dire non, vous lui dites non à Gims ce matin.
Ça veut dire que les services du ministère de l'Intérieur vont pouvoir réétudier sa demande, puisqu'on le fera évidemment, mais ne pas souhaiter bonne année parce que ce serait pas conforme à ce qu'auraient fait les amis ou les copains ou les frères de tel ou tel personnage. Aussi sacré soit-il, c'est pas une bonne preuve d'assimilation à la société française.
Par ailleurs, Gérald Darmanin a précisé ce matin sur France Inter avoir saisi la police des polices 8 mois après la mort d'Aurélie Langevin sous les coups de son compagnon à Douai. Aurélie Langevin avait été retrouvée morte couverte d'ecchymose chez son concubin, condamné à de nombreuses reprises, notamment pour menaces et violences. Elle avait déposé plainte contre lui peu avant pour menace de mort, mais la plainte, selon sa famille, n'avait pas été transmise au parquet. C'est le plus grand coming out dans l'histoire de l'Église catholique. Voilà la phrase d'ouverture d'un documentaire diffusé hier soir sur l'ARD, la première chaîne de télévision allemande. 125 personnes travaillant pour l'Église ont rendu publique leur orientation sexuelle. Objectif, assumer fièrement cette orientation et faire bouger les lignes. À Berlin, Ludovic Piétenu.
Du jamais vu dans l'histoire de l'Église catholique, cette libération de la parole de ces lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, engagés dans leur paroisse, employés de l'Église, ils demandent le libre accès aux professions pastorales plutôt que de subir la discrimination ou l'exclusion. Dans ce documentaire, beaucoup témoignent de ce choix qu'on leur a demandé de faire entre leur engagement religieux ou leur vie privée. C'est le cas de cette lesbienne convoquée par l'évêché est mise devant ce choix de rompre avec sa compagne 15 jours avant d'accoucher de son deuxième enfant. On m'a demandé si j'avais l'intention de me marier. J'ai répondu que non, que je n'étais pas en couple avec le père de l'enfant. On m'a alors fait remarquer que je ne pourrais plus travailler pour l'Église si je concluais un pacte avec ma compagne, alors que ce partenariat était fait pour assurer la sécurité de mes enfants. J'ai trouvé scandaleux qu'on me demande de faire ce choix. Carola Billing a quitté l'Église. L'institution catholique est mise à mal par ces dénonciations et aussi tout récemment par de nouvelles affaires d'abus et de violences sexuelles sur mineurs. Dans les deux cas, elle est accusée d'inaction et les fidèles désertent. Ils sont encore 22 millions en Allemagne, mais 2,5 millions de moins en une décennie. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi la neige tombée en masse dans le centre-est de la Méditerranée. Elle a contraint le gouvernement grec à décréter ce mardi jour chômé dans le pays. Et l'aéroport d'Istanbul est fermé jusqu'à cet après-midi. Des images de cette neige sur franceinter.fr et la météo en France dans un instant. Elodie Callac vient de faire son entrée dans ce studio. De manière beaucoup plus anecdotique, on a beaucoup commenté l'expression récente d'Emmanuel Macron qui voulait emmerder les non-vaccinés. C'est un petit joueur, le président français, en termes de gros mots, comparé à Joe Biden. Table ronde hier à la Maison Blanche, une certaine confusion. Un journaliste de Fox News interpelle le président sur l'inflation. Ouais, grand atout, plus d'inflation. Stupid son of a bitch. Les correspondants aux États-Unis s'arrachent les cheveux pour la traduction. Alors disons connard. Le président a appelé le journaliste ensuite pour lui dire qu'il n'y avait rien de personnel. Le tennis à présent. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Berrettini contre Gaël Monfils, quart de finale de l'Open d'Australie. C'est mal parti pour le français, Fabrice, hein?
Oui, c'est mal parti parce qu'il a perdu les deux premiers sets face à Matteo Berrettini, l'Italien, l'actuel septième joueur mondial. Il a perdu les deux premiers sets 6-4, 6-4. Mais attention, il est revenu au score, Gaël Monfils, puisqu'il vient de remporter le troisième set sur le score de 6-3. Un Gaël Monfils très largement dominé dans les deux premiers sets par un Matteo Berrettini très impressionnant, notamment au service et en coup droit. On le sait que c'est, il a un service dévastateur et que son coup droit fait extrêmement mal et il est très impressionnant de puissance depuis le début de la rencontre. Matteo Berrettini, mais là, il a connu un petit peu une petite défaillance, on va dire, Matteo Berrettini dans le troisième set, et évidemment, Gaël Monfils en a profité, donc il a saisi l'occasion donc pour prendre pour la première fois le service dans le troisième set de Matteo Berrettini, un break qui a fait la différence, il a remporté donc ce troisième set, et c'est Berrettini qui est au service maintenant dans le premier jeu du quatrième set. Gaël Monfils qui n'a plus le droit à l'erreur maintenant, hein, s'il veut se qualifier pour sa troisième demi-finale en Grand Chelem, il doit remporter les deux sets suivants. Il a déjà remonté un handicap de 2-7-0. C'est arrivé deux fois et à chaque fois c'est arrivé à l'Open d'Australie au premier tour, en 2011 face au Néerlandais de Becker et en 2015 face à un certain Lucas Pouille.
Et ça donne de l'espoir et le vainqueur aura le redoutable privilège d'affronter Raphaël Nadal en demi-finale chez les filles. Qualification cette nuit de la numéro 1 mondiale Ashley Barty et de l'américaine Madison Keys. Les Césars, c'est dans un mois environ la 47e cérémonie et c'est la cinéaste Danielle Thompson, cinéaste et scénariste, qui présidera la cérémonie, la fille de Gérard Rouri. L'histoire du jour avant la météo, vous connaissiez au cinéma justement Kramer contre Kramer. Voici Lef contre Lef, la petite brasserie artisanale du Lef dans les Côtes d'Armor, à qui le géant agroalimentaire AB InBev demande de changer de nom, concurrence avec la Lef, la bière bien connue. Delphine Evenou.
À Lanlef, 136 habitants, il y a un temple du XIe siècle et une rivière, le Lef, L-E-2-F, un nom et une image gravés sur les bouteilles de blonde et d'ambré de Philippe Le Sceau, enfant du pays revenu brasser de la bière pour sa retraite.
J'ai monté une petite brasserie ici, c'est plus pour les amis, pour les gens du coin, c'est tout. Je ne cherche même pas à mettre un code barre sur mes bouteilles pour les vendre en grande surface. Je n'ai pas envie de faire fortune avec ça, c'est pas le but.
Ce qu'il veut, c'est offrir une appellation à sa terre. Alors il dépose sa marque à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. En octobre, deux mois plus tard, courrier recommandé du propriétaire de l'Alef, marque belge, au motif d'abbaye. Sommation de se retirer, le breton est interloqué.
Ici à l'Alef, nous avons un temple, quasiment unique au monde. Et c'est pas une abbaye, c'est un temple. L'Alef est toujours là. Ils vont pas changer le nom de la rivière, changer le nom de l'Alef. On peut pas changer ces noms-là, c'est pas possible.
Philippe Le Sceau a passé quelques nuits blanches, mais reçu le soutien de ses voisins, comme Josette Conan, la mère de l'Alef.
C'est un petit producteur, né ici. Après, je ne suis pas juriste. On va laisser faire les choses. Maintenant, c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est un petit peu désolant.
Si l'INPI refuse sa marque au brasseur, le géant AB InBev pourra ensuite saisir la justice pour interdire son activité. Philippe Le Sceau, lui, a déjà en tête une troisième recette de bière.
Eh bien voilà, qui est noté dans un instant le temps de ce jour.
Pour Arnaud, retrouver son souffle, ce n'est pas important, c'est essentiel. Pour son bien-être, bien sûr, mais aussi pour pouvoir continuer longtemps de rouler avec son club de vélo. Avec la médecine thermale, prenez naturellement soin de vous pour bien vivre aujourd'hui et pour mieux vivre demain. Trouvez votre cure thermale sur médecinethermale.fr. La médecine thermale, restez soi-même et pour longtemps.
Le Grand Monde, c'est le nouveau grand roman de Pierre Lemaitre. La famille Pelletier, trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente égarée, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une actrice incognito, cet imbécile de Douairy, grosse promotion sur le linge de maison, un parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres. Le Grand Monde, le nouveau grand roman de Pierre Lemaitre, aux éditions Calmann-Lévy.
Le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Le temps est calme entre soleil et nuages bas.
Oui, alors c'est beaucoup plus gris qu'hier sur les régions du nord, de la Normandie et du Nord-Pas-de-Calais vers la région parisienne, la Champagne, l'Orléanais, ça va rester gris. Alors on peut espérer quelques coins de ciel bleu, mais c'est vraiment très ponctuel. De la Bretagne vers le Val-de-Loire, le Val-de-Saône, les Ardennes et le nord de l'Alsace, là les nuages bas se déchirent davantage, on devrait retrouver plus d'éclaircies. Plus au sud, c'est du soleil, alors quelques nuages résiduels vraiment très localisé vers la Garonne, vers la Méditerranée, et des températures froides sous cette grisaille, mais plus agréable ailleurs. Un petit degré à Orléans, 3 à Rouen, 4 degrés à Rennes, Paris, Bourges et Strasbourg. On ira jusqu'à 12 à Nîmes, 14 à Biarritz et à Bastia. Et puis demain, on reprend les mêmes et on recommence.
Merci Elodie Calac, Météo France. Il est presque 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
En France, environ 600 000 personnes résident en EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Une maison de retraite sur 5 est un établissement privé commercial. Deux grands groupes dominent le marché, Korian et Orpea, le numéro 1 mondial du secteur. Plus de 1000 établissements dans 23 pays, 65 000 collaborateurs en tout à travers le monde et un excellent taux de rentabilité. Cette réussite cache-t-elle des pratiques plus que discutables, aboutissant à des prises en charge de résidents dégradés qui relèvent parfois de la maltraitance? Le journaliste Victor Castanet a enquêté presque 3 ans sur ce groupe, une bonne partie de cette enquête pendant la période Covid, et il en tire un livre intitulé « Les Fossoyeurs », publié demain chez Fayard, livre qui amène forcément à s'interroger sur la prise en charge de nos aînés à 75 jours de la présidentielle. Alors vous êtes en EHPAD, vous y avez un proche, avez-vous noté des défaillances, manque de moyens, de personnel, peut-être y travaillez-vous? Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Notre intention n'est pas de jeter l'opprobre sur tous ces établissements et les soignants qui y travaillent, mais d'interroger après lecture de ce livre un modèle économique qui amène à oublier le cœur de l'activité, prendre soin des personnes âgées et fragiles. Bonjour Victor Castanet.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Et votre livre commence dans un établissement qui s'appelle Bord de Seine, à Neuilly-sur-Seine, établissement vitrine du groupe Orpea. L'entrée est particulièrement chic, moquette, piano, odeur de jasmin. Et puis on monte au 4e étage, et là ça ne sent plus du tout le jasmin.
Effectivement, l'établissement des Bords de Seine à Neuilly est la vitrine du groupe Orpea. C'est l'un des établissements les plus luxueux et les plus chers de France. Et
mon enquête, on parle d'un prix mensuel à combien?
C'est entre 7 000, le prix d'entrée, ouais, d'entrée de gamme, jusqu'à 15 000 euros. Mais disons que la moyenne, c'est autour de 10 000 euros par mois. Et mon enquête, elle part de cet établissement, ouais, parce qu'au départ, c'est des membres du personnel soignant, des aides-soignants, des cadres de santé qui m'alertent, ouais, sur des cas de dysfonctionnement dans cet établissement, s'agissant du personnel, des carences en personnel et des rationnements au niveau des produits de santé et des, ouais, couches, des protections des résidents. Et donc c'est à partir de là que part mon enquête, parce que la question c'est comment est-ce possible que dans un établissement si luxueux et si cher, on fasse face à de telles dérives.
3 couches par jour maximum, 2 biscottes pas plus au petit déjeuner, il y a toute une série de détails comme cela dans votre livre.
Oui, j'ai un grand nombre de témoignages de membres du personnel soignant, des auxiliaires de vie, des aides-soignantes qui parlent, c'est très important de le dire, en leur nom. Oui. Les personnes, il y a des anonymes dans ce livre, mais il y a beaucoup de personnes qui osent parler en leur nom et dénoncer ces pratiques. Effectivement, cette auxiliaire de vie, par exemple, Saïda, elle me raconte qu'elle se croyait en temps de guerre. C'est-à-dire qu'elle rationnait le nombre de protections qu'elle pouvait donner à ses résidents. C'était au maximum 3, mais ça pouvait être moins. Et effectivement, elle expliquait que elle rationnait aussi les produits alimentaires, donc les biscottes. Effectivement, elle me raconte que souvent il manquait de pain, il manquait de lait, et donc il lui arrivait parfois de devoir piquer dans les stocks des placards pour pouvoir nourrir les résidents.
On retrouve une patiente couverte de bleu, un autre enfermé dans sa chambre. Il y a des phénomènes de dénutrition massive. Les 3/4 des patients pas assez à manger ou pas mangeable pour des personnes âgées. Une ou deux personnes pour 14 résidents au 4e étage. La nuit, 3 personnes pour 125 lits dans tout l'établissement. Et puis, il y a le cas de celle qui est appelée Madame Burga, ce n'est pas son vrai nom, mère d'un homme politique dont la fin de vie a été accélérée en dehors de tout cadre légal, et je le dis pudiquement.
Oui, c'est un sujet très sensible. On m'a tout au long de mon enquête rapporté des éléments sur cette histoire et donc ça a pris du temps à raconter cette histoire et de trouver les preuves, la documentation notamment médicale pour confirmer les témoignages qu'on m'avait apportés. Mais oui, c'est un des drames qui est survenu dans cet établissement.
Alors on peut se dire c'est un établissement, mais vous en avez visité d'autres.
Alors mon enquête, elle part de cet établissement et c'est suite à ces dysfonctionnements qui me rapportent, que me sont apportés à la fois par les familles et par le personnel soignant, que je décide à ce moment-là d'aller voir d'autres résidences Orpea, d'autres EHPAD partout en France. Ouais. Je suis allé effectivement dans le sud, à Aix, à Marseille, je suis allé en Bretagne, en Normandie, dans l'Aisne, j'ai fait des dizaines d'établissements et à chaque fois, le personnel soignant, mais aussi des directeurs, dont certains parlent encore une fois en leur nom, m'ont rapporté exactement les mêmes dysfonctionnements, c'est-à-dire les carences en personnel et les rationnements au niveau des produits de santé et d'alimentation, et aussi un turnover très inquiétant au niveau du personnel soignant et de la direction, qui faisait que constamment on faisait appel à des vacataires sur des postes censés être permanents. Et donc, ça crée nécessairement des situations de maltraitance.
Et on va voir le modèle économique dans un instant. C'est important de citer le communiqué d'Orpea en réponse à votre livre. Nous contestons formellement l'ensemble de ces accusations que nous considérons comme mensongères, outrageantes et préjudiciables. Il faut dire que vous avez vu beaucoup de monde à peu près à tous les niveaux de l'entreprise. Alors pas la très haute direction qui a toujours refusé de vous répondre. Et vous avez des témoignages qui ne cessent d'arriver.
Effectivement, alors, ce qui est important à raconter, c'est que cette enquête, elle part du personnel soignant qui m'alerte. Et après ça, je suis allé voir pour comprendre le système à l'origine de cette maltraitance dans les établissements, ce système mis en place par les dirigeants du groupe. J'ai dû monter petit à petit dans l'échelle décisionnelle du groupe. Et donc, j'ai vu d'abord personnel soignant, puis après des directeurs régionaux. Et des membres du siège qui témoignent là encore en leur nom de différents services, à la fois le service achat, le service RH, le service médical. Et ces gens-là, ce sont ces gens qui m'ont raconté ces dérives.
Catherine, qui nous a appelé ma belle-mère, j'imagine, a fini sa vie dans une résidence Orpea. Il fallait débourser 3000 euros par mois. Elle n'a eu aucun accompagnement palliatif. Je trouve très bien que des lanceurs d'alerte signalent les abus de ce groupe. Et nous sommes en ligne avec Pascal. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Paris, nous vous écoutons.
Eh bien, votre invité, dont j'ai pas retenu le nom, parle effectivement... Victor Castanet, ouais. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez cité le service achat, et moi je n'étais qu'à mon humble niveau fournisseur de ces gens-là. Et on m'a vite expliqué que quand on travaille avec ce genre d'établissement, le personnel, comme le client, c'est du consommable. Et que comme le client n'est pas exigeant, rapidement on vous explique que Lidl c'est du haut de gamme, donc il faut avoir une prestation qui soit à la hauteur de la demande du client, donc de l'ultra low cost c'est encore trop cher. Donc et quand vous parlez des odeurs et toutes ces choses là oui, dans ma carrière j'ai vite compris que les démonstrations valait mieux les faire l'après-midi que le matin, parce que le matin c'est intenable.
Alors Victor Castanet, merci beaucoup Pascal pour ce témoignage. Vous voulez le commenter d'un mot et on va parler des fournisseurs.
Oui, malheureusement effectivement ces témoignages de fournisseurs, du professionnel du secteur, j'en ai eu beaucoup et effectivement ils me racontent tous la même chose, c'est-à-dire que cette course au profit, cette obsession de la rentabilité, elle entraîne le rationnement des produits et effectivement aussi à prendre des produits de très mauvaise qualité, à la fois sur les protections mais aussi sur l'alimentaire. Donc c'est malheureusement des témoignages que j'ai obtenus et traduits dans mon livre, et effectivement depuis l'annonce de la sortie du livre, j'ai beaucoup de messages qui me parviennent.
Alors c'est important de préciser que le financement des EHPAD, qu'il soit public ou privé, repose en grande partie sur de l'argent public. Au fond, il y a trois sources. Le tarif hébergement, en gros c'est la prestation hôtelière qui est payée par le résident ou la famille. Le forfait dépendance, ça c'est le conseil général qui prend en charge. Et puis le forfait soins, ça c'est l'assurance maladie. On parle donc d'argent public très largement. Pour un groupe comme Orpea, ça représente des centaines de millions d'euros.
Ouais, ça c'est peut-être un des points les plus importants de ce livre. C'est qu'effectivement le grand public ne le sait pas forcément, mais Orpea, qui génère pourtant des milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, reçoit des dotations publiques pour chacun de ses EHPAD. C'est entre 1 et 2 millions d'euros de dotations publiques annuelles. Et effectivement, ce que me racontent des gens de l'intérieur, des lanceurs d'alerte, du service achat encore ou des services financiers, me raconte que le groupe avait une gestion contestable de l'argent public, qu'une partie de l'argent public qui devait être alloué au bénéfice des personnes âgées n'étaient pas utilisées à leur profit.
Alors, comment faire des économies avec l'obsession de la rentabilité? Et au fond, ce qui est très important, c'est que les directeurs des établissements ne sont pas maîtres de leur budget, ne sont pas maîtres de leur personnel. Tout est réglé au siège. En tout cas, c'est ce que vous racontez avec des logiciels, des tableurs Excel, etc. Alors, on fait des économies sur quoi? Ben, sur le personnel, évidemment, des CDD à la place de postes permanents. Et puis, on entendait un fournisseur, c'est pour ça que je trouvais important de l'entendre. On pratique ce qui existe dans la grande distribution, les marges arrière. C'est-à-dire qu'on négocie les tarifs, les couches par exemple, on négocie les tarifs et on se fait rembourser quelque chose à la fin de l'année.
Ouais, ça c'est un système que j'ai mis beaucoup de temps à décrypter, mais effectivement j'avais au départ des directeurs qui me racontent les rationnements et les problèmes de qualité des protections et qui me disent « je ne comprends pas, je n'ai pas assez de protection, mais j'ai l'impression qu'ils payent vraiment... la facture liée à leur dotation publique. Il doit avoir quelque chose derrière. Et c'est en remontant l'entreprise, en rencontrant de plus hauts dirigeants, que j'ai appris et j'ai eu des documents me montrant qu'effectivement, ce groupe avait mis en place un système de marge arrière sur les produits de santé, dont certains sont financés par l'argent public, et notamment sur les protections. Et donc effectivement, ils vont régler leur facture au conseil départemental, ils vont montrer qu'ils ont bien dépensé 10 000 euros qu'ils ont payé à leur fournisseur. Et à la fin de l'année, le fournisseur va leur reverser une partie de cette somme via un autre circuit financier. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que je suis allé voir des conseils départementaux et des agences régionales de santé pour leur demander s'ils étaient au courant. Et tous les inspecteurs que j'ai vus me disaient qu'ils n'avaient jamais eu connaissance de ces marges arrière.
Alors ça, on y reviendra. Et la traduction de ces marges que les fournisseurs tirent au plus bas, c'est que par exemple, on reparle des couches parce que c'est vraiment symbolique. Et ben, il y a des protections de plus en plus petites pour faire des économies. Et donc, des protections de moins en moins efficaces. Étienne, bonjour Étienne, vous êtes au Standard.
Oui, bonjour.
Vous avez travaillé en tant qu'infirmier pour Orpea.
Oui, dans une structure, oui. Chez Orpea, et tout ce que décrit Monsieur Castanet, je l'ai vu, je l'ai subi aussi, parce que j'ai quitté cette maison de retraite, parce que je me sentais maltraitant vis-à-vis des résidents. Manque de personnel, manque de moyens, voilà. C'est vraiment ce qu'a décrit Monsieur Castanet, c'est vraiment ce que moi j'ai vécu. Pendant très peu de temps, mais voilà. Et j'en suis ressorti un petit peu...
Abîmé. Blessé. Merci Étienne pour votre témoignage. Oui.
Oui, je veux bien réagir parce que c'est très important. Si vous voulez, moi, quand j'ai lancé cette enquête, on m'a souvent dit faites attention, ne faites pas de l'EHPAD bashing. Et là, quand je vois le communiqué d'Orpea, ils me disent que je porte une charge contre les collaborateurs du groupe. Ce que je veux bien dire, c'est que cette enquête, elle s'est faite justement pour raconter que le personnel soignant est bien souvent victime de ce système mis en place par les dirigeants. Et donc, très souvent, ils se retrouvent, comme dit ce monsieur, à être maltraitants contre leur gré. C'est-à-dire, ils peuvent pas travailler dans des conditions normales. Donc, ils sont obligés de faire des changes trop rapides. Ils peuvent pas prendre soin convenablement des personnes âgées. Donc, ce qu'il faut bien dire, c'est que ce personnel soignant, il est autant victime que les pensionnaires.
Je voudrais encore aborder deux points et puis entendre une autre personne au Standard. Ce qu'établit votre livre aussi, c'est que c'est facile de balader les inspecteurs. Vous en disiez un mot, inspection du travail, agent des autorités de tutelle, assurance maladie, ne sont pas au niveau pour contrôler ces établissements.
Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que ce livre, il raconte à la fois les dérives du leader mondial des EHPAD et des cliniques et les défaillances du système de santé français. Et là, effectivement, j'ai obtenu des témoignages, encore une fois, de gens qui parlent en leur nom et qui sont prêts à assumer leurs propos en justice, qui effectivement me racontent la supériorité du privé sur le public et le fait que non seulement les contrôles étaient trop rares, mais que bien souvent le groupe était prévenu à l'avance, un mois à l'avance. Et donc j'ai une personne qui était au siège, qui lui-même participait à ces dysfonctionnements et qui me racontait comment il préparait les contrôles, comment justement il pouvait modifier des plannings, refaire des contrats de travail avant l'arrivée des inspecteurs.
Témoignage de Christian. Alors c'est pour entendre des témoignages sur d'autres maisons de retraite que Orpea. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, de votre côté?
Bon, moi, ce que j'entends, c'est que sur les infos sur le sujet, c'est que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que 2006 à 2014, ma mère était dans une EHPAD de la banlieue de Metz, et plus particulièrement dans l'unité Alzheimer de 14 personnes. Donc je me suis rapidement rendu compte de certains dysfonctionnements, notamment corporels, à savoir, je rentre dans le concret, hein, des oreilles jamais nettoyées, une douche tous les 15 jours, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lèvres malades, des couches, là aussi, c'est un gros problème, pas souvent remplacées, ma mère sentant souvent l'urine, et j'en passais des meilleures. Et puis le gros problème aussi, c'est que les patients n'étaient quasiment jamais sortis une fois dans l'année pour aller faire les visites des marchés de Noël. Et le gros problème, hein, naturellement, c'est un manque de personnel. J'ai pu le constater, moi, avec des fois je partais assez tardivement, il y avait deux infirmières la nuit pour 115 lits. Donc fatalement, quand il y avait des problèmes à l'étage, ouais. Les personnes à l'unité Alzheimer, les infirmières étaient seules. Merci. Tout ça entraînant des chutes, etc.
Voilà. Merci beaucoup Christian pour ce témoignage. Un tout dernier mot, Victor Castanet. Les réseaux politiques du groupe, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, vous le mettez en cause, de quelle manière ?
Alors là, c'est un sujet qui concerne le sujet des autorisations. C'est-à-dire qu'en France, contrairement à d'autres pays européens, vous pouvez pas ouvrir un établissement de santé sans obtenir un agrément des agences régionales de santé et des conseils départementaux. Et effectivement, là encore, j'ai des gens de l'intérieur qui témoignent en leur nom, qui me rapportent que pour obtenir ces autorisations, il fallait nouer un certain nombre de relations avec de hauts fonctionnaires des agences régionales de santé, voire mieux, des hommes politiques. Et c'est dans le cadre de ce sujet des autorisations que le nom de Xavier Bertrand a été plusieurs fois mentionné. Et d'après les témoignages que j'ai obtenus, il aurait aidé le groupe à obtenir des autorisations d'ouverture d'établissement.
Le livre s'appelle « Les Fossoyeurs ». Il est publié demain par les éditions Fayard, signé Victor Castanet. Enquête longue, fouillée et édifiante. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'être venu dans les studios de France Inter, 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre, Jean Lebrun dans 10 minutes, le vif de l'histoire. Bonjour Jean.
Bonjour Bruno.
Les adoptions internationales ?
Oui, le début de vie, la fin pour les adoptions internationales, c'est une vraie question.
Le feuilleton avec un médecin légiste cette semaine, et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
À votre micro aujourd'hui, la comédienne humoriste belge Virginie Hoc. Elle est en tournée, son sixième seul en scène, Virginie Hoc, ou presque, deux soirs à la Cigale à Paris cette semaine.
Et la chanson dont elle a choisi de me parler reste liée pour elle à un souvenir très intime, son accouchement il y a 6 ans.
C'est-à-dire que j'avais une copine qui est devenue la marraine de ma fille qui m'avait dit « je vais te faire une petite playlist pour ton accouchement ». Et à un moment, quand j'ai une petite accalmie, je me suis dit « je vais écouter la playlist de mon amie ». Et là, qu'est-ce que je n'entends pas ? J'entends Tata Yo-Yo. Annie Cordy que j'aime énormément. Mais ça n'était pas le sujet à ce moment-là. Je n'ai pas le cœur ni l'envie d'écouter Tata Yo-Yo. Et là, c'est là que mon amoureux, mon chéri, le papa de ma fille, descend vite à la voiture et trouve un vieux CD, sans doute par terre, juste devant, côté de vieilles bouteilles d'eau, et pouf, chadé. Ce CD est passé en boucle pendant tout l'accouchement. Et tous ces mots résonnaient, toute cette ambiance, toute la conscience que j'avais des gens qui étaient autour de moi, la kiné, qui disaient que je poussais extrêmement bien. Je trouvais qu'elle me valorisait à ce moment, j'ai adoré. La sage-femme, je lui ai dit « mais bravo, vous faites ça pour toutes les femmes ». La gynéco qui était là, je ne la voyais pas bien, avec mon gros ventre, mais je savais qu'elle n'était pas loin. Et mon chéri à côté à qui je disais « ne passe pas, fais un grand tour si tu veux venir de l'autre côté, mais ne me frotte pas l'épaule, ne souffle pas dans mon cou en me disant « bah si chérie, ça va aller ». Tout ça, cette prise de conscience et avoir conscience de la musique aussi, c'est devenu un bon souvenir, alors que tout le monde m'avait dit que c'était horrible, j'avais des copines qui m'avaient parlé de tout. Et ben moi, j'ai adoré ce moment. Et donc quand Billy est sorti, je me suis dit « je recommence tout de suite, dis donc ».
Et ce titre sur lequel a accouché Virginie Hoc, c'est No Ordinary Love, Frédéric Kern.
Année de sortie 1992.
Oula.
Et oui, elle a 30 ans cette chanson. Quant à la fille de Virginie Hoc, qui en a 6, elle s'appelle donc Billie. mais elle est restée sans prénom pendant 2 semaines.
Les infirmières, quand elle est arrivée à leur son nom, j'ai dit « je ne sais pas », elle m'a dit « c'est pas grave ». Le 2e jour, alors, je ne sais pas. Ah oh, oui, quand même. Et le 3e jour, enfin, on n'a jamais vu ça. En Belgique, nous avons 15 jours. J'ai pris mon temps.
Et Billy a continué à écouter Sade ?
Ah ben oui, ça fait partie de la musique qu'on écoute. Elle, elle est persuadée qu'elle l'a entendue quand elle est sortie de mon ventre. Mais c'est parce qu'on lui fait écouter depuis toute petite. Et d'ailleurs, c'était son anniversaire avant-hier. On a écouté ça.
Tout à l'heure, le texte de cette chanson résonnait avec ce que j'étais en train de vivre. Qu'est-ce qui résonnait en particulier ?
Mais c'est toute cette atmosphère, hein, c'est-à-dire que j'avais pas la conscience non plus de dire « Ah, ça c'est le mot juste, hein. Ah, pousser !» Non, je n'avais pas cette conscience-là, vraiment. Mais amour, quelque chose de pas ordinaire, d'avoir cette chance de fabriquer un être humain. Il y a des musiques à un moment qui m'oppressent. Celle-là, elle passait en boucle et c'était d'une fluidité. La voix de cette femme, j'avais ses images aussi. Pourtant, je ne l'avais plus écoutée depuis bien longtemps. Je pensais à ses boucles d'oreilles, je pensais à cette tresse, cette féminité. Et comme je l'ai passée encore pour l'anniversaire de Billy, je sens qu'elle, et je m'y attends à l'adolescence, me dira... Oh, ah, oh, ça va, c'est bon, chaque année c'est le même truc, j'en peux plus de cette chanson. Et qu'à un moment donné, elle réutilisera ça et ça deviendra son propre souvenir.
Sade, No Ordinary Love. C'était donc Frédéric le choix de l'humoriste et comédienne Virginie Hoc.
Actuellement tournée avec son 6e seul en scène Virginie Hoc, ou presque. Elle sera notamment à La Cigale à Paris, jeudi et vendredi.
Une semaine dans leur vie, 2e épisode de notre feuilleton avec le docteur Jean Hickey, médecin légiste à Pau. Aujourd'hui, nous le retrouvons près d'un cadavre avec notre journaliste Mathilde Vinceneux. Des enquêteurs de la police judiciaire attendent au sous-sol de l'hôpital de Pau. Question, la mort est-elle naturelle ou suspecte ?
Donc on s'habille toujours de façon à être protégé de tout ce qui est projection, notamment de liquide biologique, le sang.
Donc là vous êtes entièrement en combinaison blanche avec des gants.
Si jamais vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à le dire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le contexte du décès ?
Très peu de choses, si ce n'est que ce jeune homme marchait dans la rue, parce qu'il y a un passant qui l'a vu s'écrouler.
Donc, malaise. Le corps est présenté allongé sur le dos. Membre inférieur droit. Donc là, en fait, on passe en revue toute la surface de la peau. Après... À l'issue de cet examen externe de corps, s'il y a des choses qui demeurent inexpliquées ou qui demeurent suspectes, on va pousser le corps jusqu'à l'autopsie, donc qui se fait à l'Institut médico-légal de Toulouse. Abdomen, une ecchymose verdâtre arrondie. Bah, il y a eu un impact, alors ça peut être un coup, ça peut être un choc sur un plan dur, et la coloration de l'ecchymose va nous donner une indication un peu sur le caractère récent ou plus ancien d'une blessure. Alors il n'y a aucune méthode scientifique qui permette de déterminer avec précision un jour et une heure, mais voilà, c'est quelque chose qui remonte à quelques jours déjà. Région latéro-thoracique gauche, une lésion arrondie, très régulière. 8 mm de diamètre. C'est marrant, on dirait presque... Enfin, je dis pas que c'est ça, mais on dirait que ça fait un peu brûlure de cigarette. Avant-bras, tiers inférieur, face postérieure. Quand il y a des mécanismes de lutte, souvent, les gens ils vont porter des stigmates de prise manuelle avec des ecchymoses en grappe qui reproduisent la pulpe des doigts. On va aussi avoir des impacts quand on veut se parer d'un coup. Là, c'est pas le cas. On passe au niveau du cou. Donc le cou, c'est une zone importante qu'on regarde aussi, hein, sur laquelle il peut y avoir souvent des lésions, notamment dans les mécanismes de strangulation. Pas de mobilité anormale à la palpation du cuir chevelu. Donc, dans ce contexte-là, moi, j'ai pas de lésion suspecte qui fasse orienter vers une piste éventuellement criminelle, mais je préconise quand même une autopsie pour ce sujet. À ce stade-là, moi, je peux pas exclure formellement que, je sais pas, moi, une demi-heure avant, on lui ait pas mis un produit toxique dans son verre et qu'on l'ait pas empoisonné. Je peux vous dire qu'ayant fait des centaines d'autopsies, on peut très bien avoir un examen normal externe et avoir des lésions traumatiques internes. Moi, maintenant, avec un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience, ce qui me fait le plus vibrer, entre guillemets, c'est quand tous les premiers intervenants dans une enquête, une découverte de cadavre, pensent que le décès est d'origine criminelle et qu'en fait, notre expérience nous conduit à penser le contraire. J'ai en tête un dossier d'un sujet qui avait été retrouvé à son domicile avec du sang partout dans la maison, puis du sang dans le jardin. Tout le monde pensait que cette personne avait pris un coup avec un objet tranchant, type un coup de couteau, quoi. Et puis, en fait, les berges de la plaie ne présentaient pas de caractéristiques évidentes d'un objet piquant tranchant. Et en fait, il s'avère que le sujet était tombé. Et en fait, c'était empalé sur une vitre. Et donc, faut être quand même un peu sûr de soi quand on avance l'hypothèse, mais ça s'était bien expliqué.
Le feuilleton, une semaine dans la vie d'un médecin légiste, Mathilde Vinceneux, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. L'Assemblée nationale vient de voter une proposition de loi sur l'adoption qui se présente comme une modernisation de l'adoption, par exemple pour mieux l'ouvrir aux couples du même sexe. Mais ce texte accompagne surtout une contraction spectaculaire de l'adoption internationale.
Le nombre des enfants étrangers adoptés, qui avoisinait les 4000 autour de l'an 2000, est tombé à 421 en 2019 et à 244 en 2021. On est loin de l'époque où Joséphine Baker constituait son foyer arc-en-ciel de 12 enfants venus de tous les pays. Le sociologue Sébastien Roux titre carrément une enquête qu'il vient de faire paraître « La fin de l'adoption internationale ». Il décrit une réunion d'information destinée aux candidats parents. À mesure que l'heure avance, leur visage se décompose quand il leur est expliqué qu'ils devront attendre, après leur agrément, 7-8 ans avant qu'un apparentement se réalise ou pas.
Retournement démographique donc, retournement moral aussi de la conception de l'adoption.
Longtemps, l'adoption a surtout concerné des majeurs, à qui des aînés cherchaient à transmettre leur patrimoine. Il y a un siècle, quand l'adoption de mineurs s'est développée, elle se faisait sur le modèle de la famille traditionnelle. Et pareillement, quand, à partir des années 1970, l'adoption internationale s'est envolée. D'un côté, des parents candidats déclarant de l'amour à donner, et de l'autre, les enfants victimes de guerre, de pauvreté, qui pouvaient s'estimer chanceux de l'opportunité qui leur était offerte.
Oui, mais la situation est à ce point déséquilibrée qu'elle a fait l'objet de critiques de plus en plus nombreuses.
Alors, dans les pays d'où viennent les enfants, ils commencent à parler de violation de leur souveraineté nationale. Chez un certain nombre d'enfants qui peuvent se dire victimes d'une captation. Et maintenant, au long de la procédure d'agrément, les parents, candidats, s'entendent répéter « Les enfants que vous allez peut-être accueillir ne sont pas des enfants comme les autres, car ils ont vécu l'expérience de l'abandon ». Et les parents candidats doivent en conséquence se persuader qu'ils ne formeront pas une famille comme les autres. Qui n'accepte pas d'entrer dans ce nouveau discours a beaucoup moins de chances d'obtenir l'agrément.
Puis vient le temps, généralement très long, de la recherche de l'apparentement.
Alors recherche individuelle, dans un pays de son choix, le texte que vous citiez de Monique Limon, députée de l'Isère, à l'Assemblée, pousse à réduire cette procédure, déjà minoritaire. Passage par un opérateur, alors là c'est très compliqué. L'Agence française de l'adoption est accessible depuis toute la France et coopère avec tous les pays qui peuvent être concernés, mais les OAA, organismes autorisés pour l'adoption, peuvent ne l'être que dans certains départements et ils ont à l'étranger leur destination spécialisée. Les organismes autorisés pratiquent leur propre questionnaire de motivation assez intrusif et face à ceci, les candidats réalisent vraiment qu'ils vont devoir accepter des enfants à particularité, c'est-à-dire porteurs de pathologies. En 2017, c'est le cas de 90% de ceux venus du Vietnam.
Bon, qu'on se préoccupe d'abord des enfants et de leurs droits plutôt que de satisfaire un droit à l'enfant qu'affichaient parfois les parents candidats, ça témoigne d'une moralisation.
C'était évidemment souhaitable. On se souvient de l'arche de Zoé, embarquant nuitamment au Tchad d'une centaine d'enfants présentés faussement comme des victimes de la famine du Darfour et qui en réalité avaient été précommandés par des familles de notre bonne vieille métropole coloniale. À La Haye, une convention internationale de l'adoption a pris forme qui a inspiré ensuite les législations de nombreux pays. Mais, demande Sébastien Roux, si la moralisation était nécessaire, pourquoi n'a-t-elle pas sauvé l'adoption internationale? Peut-être même elle l'a contrarié par ses effets pervers. Des adoptants, on exige qu'ils se soumettent à une véritable opération vérité. En revanche, il est des pays interlocuteurs qui produisent sur l'origine des enfants plus de faux papiers que de vrais. Alors, un paradoxe. D'un côté, il nous est affirmé que la famille est de plus en plus recomposée, ductile, évolutive. Mais en matière d'adoption, les normes sont de plus en plus contraignantes. Et puis, j'en ajoute un autre. Pendant que l'adoption internationale s'effondre, dans le silence, la GPA à l'étranger se développe dans un concert de médias favorables.
Sébastien Roux, sans d'encre, la fin de l'adoption internationale, c'est aux éditions Vendémiaire. Bonjour Mathieu Vidard.
Et bonjour Bruno.
Et la Terre au carré à venir.
Oui, expédition océanique pour étudier le plancton aujourd'hui.
À tout de suite.